Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Assurément, cette nuit-là, les apôtres ont veillé, ils n'ont pas dormi de la nuit, ils sont restés éveillés. Mais est-ce qu'ils ont prié ? Prier pour ne pas entrer en tentation. De quelle tentation le Seigneur parle-t-il ? De quelle tentation parlons-nous lorsque nous prions notre Père de ne pas nous laisser entrer en tentation ? La réponse est simple. La tentation de vivre sans Dieu. La tentation de vivre comme si Dieu n'existait pas. Ou comme si Dieu n'était pas Dieu, c'est-à-dire comme s'il n'était pas une puissance d'amour, mais une puissance peut-être absolue, mais neutre, utilisable, mobilisable à notre gré. Dieu est, et Dieu est amour. Les crimes qui sont commis au nom de Dieu, ces attentats effroyables dans des églises, au Sri Lanka le jour de Pâques, renforcent chez nos contemporains cette conviction moderne qu'il y aurait une violence inhérente aux religions ou à certaines religions. Est-ce que mal agir au nom de Dieu est une tentation du croyant ? Comme de vivre sans lui serait la tentation de l'incroyant. Il n'est pas sûr que les deux soient sur le même plan, que soit sur le même plan le fait de vivre sans Dieu, comme s'il n'existait pas, ou de, à l'inverse, de l'instrumentaliser, de le prendre à notre service. Ce sont deux tentations, deux écueils différents qui peuvent prendre place dans notre vie à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il y a des moments où nous pouvons, même tout croyant que nous sommes, l'oublier. Je ne dis pas le renier, l'oublier, vivre comme s'il n'était pas là. Ou à l'inverse, dans certains cas particuliers, le convoquer. C'est la première question que je vous propose pour ces jours-ci. De voir quelle est la tentation qui vous menace le plus. De vivre une grande partie de votre vie sans Dieu, ou de chercher assez régulièrement de l'utiliser ou de le vouloir à votre service, votre profit. Ces deux tentations étaient présentes dans le cœur des disciples. Elles sont présentes dans le cœur de tout disciple. La tentation de ne pas penser à lui, de ne pas demander son aide, ou au contraire de le réquisitionner. Fais quelque chose. Alors cette nuit-là, dans la barque, est-ce qu'ils ont prié ? Ils ne pêchaient rien. Ils n'y arrivaient pas, à rien, toute la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Alors qu'ils étaient dans l'échec, est-ce qu'ils ont demandé à Dieu son aide, son secours ? Il n'y avait pas de danger de mort. Ce n'était pas comme la semaine dernière, lorsqu'ils étaient barricadés, lorsque les portes étaient verrouillées par crainte des Juifs. Là, il y avait danger de mort. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment danger pour qu'on se mette à se tourner vers Dieu ? Ça, c'est la deuxième question que je vous propose. Et vous, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Dans la difficulté, que ce soit au travail ou dans votre vie, est-ce que vous priez ? Quand vient la fatigue, la colère ou le désespoir ? Quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait ? Tel que nous connaissons les apôtres, aussi bien par les évangiles que par la tradition, on peut être sûr qu'ils ont prié. C'était des hommes simples. Des hommes simples qui savent donc que tout est sous le regard de Dieu. On peut être sûr qu'ils ont prié, mais il est également très probable qu'ils ne demandaient pas la même chose. C'est bien le problème que nous avons. Nous ne demandons pas tous la même chose. En tout cas, cette nuit-là, dans la barque, il y en a un au moins qui n'a pas prié pour qu'ils attrapent du poisson, qui n'a pas prié le Seigneur, qui n'a pas demandé que la pêche soit sauvée, qui n'a prié ni pour de l'argent, ni pour sa famille, ni pour sa santé à lui, ni pour celle de ses proches, ni pour ses affaires. Il a prié pour que leur relation entre eux dans la barque, l'ambiance qui se dégradait au fil des heures, que cette ambiance reste amicale, fraternelle. Celui qui a prié ainsi, c'est le disciple que Jésus aimait. Celui qui a dit à Pierre, c'est le Seigneur, celui qui l'a reconnu, pas à cause des poissons, à cause du soulagement, de l'apaisement dans la barque entre eux, du souffle de l'esprit, c'est-à-dire de l'esprit d'unité. Le disciple que Jésus aimait avait pris Marie chez lui. Jésus, sur la croix, lui avait dit, voici ta mère. Prendre Marie chez soi ne signifie pas, ou du moins pas seulement, mettre des petites statuettes, des icônes, des images. Prendre Marie chez soi, ça veut dire vouloir la paix, être attentif aux autres, chercher à préserver l'unité. Et cette nuit-là, le disciple que Jésus aimait a probablement invoqué Marie, lui a demandé qu'elle intercède auprès de son fils, comme à Cana. Comme à Cana, qui est un miracle comparable dans sa surabondance. Un miracle. J'ai déjà rencontré un miraculé. Un vrai, authentifié, certifié. Une femme miraculée, inexplicablement guérie. C'était une femme totalement paralysée qui souffrait d'une maladie incurable. Un jour, dans son lit, c'était une fin de matinée, elle sent une chaleur dans son corps, elle ne sait pas pourquoi elle se lève, elle tenait debout, toute seule. Le kiné arrive à ce moment-là à la porte, il tombe dans les pommes. Guéri, miraculé. Mais commence alors, c'est là que commence son chemin de croix. Son chemin de croix parce qu'elle accepte que le miracle soit certifié, attesté. Un calvaire, la série d'examens médicaux, d'entretiens psychiatriques, de consultations d'experts en tout genre, inégalement aimables. Pourquoi ? Pour que le miracle puisse être attribué au fondateur d'une communauté de religieuses qui était à côté, qui priait pour elle. De son témoignage, j'ai retenu deux choses. L'émotion. L'émotion devant un événement qui dépasse notre intelligence, qui ouvre notre esprit, qui ouvre le monde entier, qui nous ouvre à vraiment, pas au surnaturel, à la réalité du monde, à la réalité de la vie, de la présence de Dieu. Et l'autre chose que j'ai retenue, c'est que cette femme n'avait jamais prié pour sa guérison. Elle n'avait jamais demandé de miracle. Je ne dis pas cela pour que vous renonciez à en demander un, pour vous ou pour un proche. Je dis ça pour que nous puissions entrer dans le mystère de cette pêche, de ce miracle, cette pêche miraculeuse. Est-ce qu'ils avaient demandé ce miracle ? Certains d'entre eux l'avaient déjà vécu. Parce qu'on trouve le récit d'une comparable pêche miraculeuse au début de l'évangile de Saint-Luc. À moins, ce qu'on dit souvent, que ce soit le même événement qui est raconté par les deux évangiles et les deux évangélistes dans deux contextes différents, avec deux intentions théologiques différentes. Saint Luc, au début, pour l'appel des premiers disciples. Saint Jean, à la fin, d'une certaine façon, pour les rappeler alors qu'ils étaient tentés de reprendre leur vie d'avant. Parce que les appels de Dieu, c'est ainsi. Les appels de Dieu sont continus, permanents. Il ne nous appelle pas une fois pour toutes, il nous appelle sans cesse. Il nous appelle, il nous rappelle. Simon Pierre, quand il a entendu que c'était le Seigneur, passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, il se jeta à l'eau. C'est absurde. Et ce qui fait ça, qui est absurde, il fait les choses à l'envers parce qu'il est bouleversé, ou est-ce que c'est en souvenir du dernier repas, c'est-à-dire de l'avertissement de Jésus, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Il sait qu'il a besoin d'être purifié. Nous le savons nous-mêmes, chacun de nous, nous le savons tous. Et c'est d'ailleurs ainsi que se concluait au début de l'évangile de Saint-Luc, la pêche miraculeuse. Pierre se jetait aux pieds de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Ensuite, Pierre tire jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, et il y en avait donc 153. Troisième énigme de ce texte. Troisième énigme ou mystère. Première énigme, mystère, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas Jésus alors qu'il était à portée de voix. Trop occupé, trop pris, trop absorbé, trop déçu, trop soucieux. Deuxième mystère, ce comportement de Pierre qui s'habille pour se jeter à l'eau. Peut-être une façon de nous dire qu'il n'y a pas que notre cœur, il y a aussi nos apparences. Tout entier, nous avons besoin d'être purifiés. Et puis ce chiffre de 153, qui a surtout de symbolique, celui de l'unité, bien sûr. Trois, comme la Trinité. C'était la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples et suivent les trois questions de Jésus à Pierre en réparation de son triple reniement. 153, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas les grands nombres. On pourrait dire 150 000, 150 millions, 150 milliards, ça sera toujours dérisoire devant Dieu. 150, c'est ce qui fait un miracle pour cette pêche. Et 3, c'est la signature, le signe de l'esprit. Comment Dieu vous parle-t-il ? C'est la question que m'a posée une amie qui ne voit plus la présence de Dieu dans sa vie. Elle va avoir 40 ans, elle ne trouve pas de mari. Ce qu'elle voudrait, c'est se marier. Et elle ne voit plus la présence de Dieu. Comment Dieu vous parle-t-il ? Alors, je cherchais une réponse appropriée. Elle me dit, vous n'avez pas de réponse automatique ? Comment Dieu nous parle-t-il ? Quand, devant un événement extérieur, on entend une voix intérieure. Quand j'entends en moi une parole personnelle sur la réalité qui se passe devant moi. L'exemple que je prends souvent comme prêtre, c'est quand il y a pile la personne qui vient se confesser, confesse le péché que je ne veux pas voir. Je dis, Seigneur, c'est bon, j'ai compris. C'est aussi comme ça que l'Évangile nous parle, que la parole de Jésus à Pierre nous est peut-être personnellement adressée. Est-ce que tu m'aimes, toi qui m'as renié ? Est-ce que tu m'aimes, toi qui m'oublies ? Et vous, comment Dieu vous parle-t-il ? C'est la troisième question que je vous propose pour ces jours-ci. La première, c'était à propos de prier pour ne pas entrer en tentation, de vous demander quelle est votre tentation majeure ? De vivre comme si Dieu n'existait pas ? Ou de le chercher à le mettre à votre service ? La deuxième question, c'était à propos de l'échec des disciples. Et vous, dans la difficulté, est-ce que vous priez quand les choses ne se passent pas quand vous le voulez ? Et troisième question, et vous, comment est-ce que Dieu vous parle ? Est-ce que vous êtes comme les disciples qui répondent « Non !» Quand Jésus dit « Les enfants, vous avez quelque chose à manger ?» Vous voyez bien qu'ils ne posent pas la question sur ce qu'ils ont. C'est la question sur leur désir, sur leur faim. Parce qu'il annonce ce qu'il va lui-même leur donner. C'est lui qui va les nourrir. Nous pouvons demander des miracles. Est-ce que ça va nous rapprocher de Dieu ? Souvenez-vous de ce que Jésus fait dire à Abraham dans l'Évangile, dans la parabole qu'on appelle du mauvais riche et du pauvre Lazare. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, s'il n'écoute pas la parole de Dieu, quelqu'un aurait beau ressusciter d'entre les morts, il ne croirait pas. La question du miracle, c'est vraiment la bonne question. Mais elle n'est pas, ou elle n'est pas seulement comment Dieu nous parle, mais que faut-il pour que nous l'entendions ?